Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous êtes nombreux à nous écouter dans le métro grâce au podcast. Et aujourd'hui sur Europe 1, c'est l'histoire du fantastique chantier du métro parisien que nous raconte Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour les Parisiens, et c'est vrai aussi pour les habitants de quelques grandes villes en France, Marseille, Lille, Toulouse, Rennes et Lyon, prendre le métro est une habitude à laquelle on ne fait même plus attention. Mais remettez-vous dans la peau des concepteurs du premier métro il y a un peu plus d'un siècle. Établir un tel réseau de transport souterrain relevait littéralement de l'exploit.
Je crois que c'est la parution de l'ouvrage d'Astrid Fontaine, Les Peuples des Tunnels, qui vous a donné l'idée de cette émission.
Oui, Le Peuple des Tunnels. En effet, il s'agit d'un livre passionnant dont Astrid Fontaine va venir nous parler tout à l'heure. On y partage le quotidien de ceux qui ont conçu, creusé, aménagé le métro, de ceux qui l'ont utilisé aussi. Et puis, surtout, j'ai découvert dans ce livre l'existence, à Paris, d'une ancienne compagnie privée de métro complètement oubliée. Vous savez, j'aime bien ces livres qui partent de l'archive pour nous révéler des pans entiers, des pans oubliés de notre histoire.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Voici encore un sujet qui nous plonge au cœur des vieilles rivalités franco-anglaises. Pour ce qui est du métro, reconnaissons de manière magnanime que les Britanniques ont eu clairement deux ou trois longueurs d'avance sur nous dans l'affaire, et même plus d'une génération, puisqu'ils ont fondé le London Underground dès 1863, alors que celui de Paris ne devait voir le jour que pour l'exposition universelle de 1900, donc 37 ans plus tard. Les travaux vont commencer à Paris en 1898, sous la direction de Fulgence Bienvenue, vous savez, cet ingénieur des ponts et chaussées, manchot depuis un accident de train. Il s'était déjà illustré en perçant dans l'Est parisien l'avenue de la République et puis en construisant le funiculaire de Belleville. C'est une personnalité plus qu'attachante, ce cher Fulgence. Nous allons y revenir dans un instant. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point les travaux du métro vont transformer Paris en une sorte de gigantesque chantier, comme une carrière pleine de rues éventrées pour construire les galeries à ciel ouvert. Quand je pense que nous nous plaignons aujourd'hui des travaux qui défigure la capitale et qui entrave sa circulation, mais à côté, on pourrait presque parler de bricolage. La grande partie des premières lignes suit les grandes artères de la circulation parisienne et pour cause, leur construction se fait, je viens de vous le dire, par éventration des rues et aménagement à quelques pas de la surface. Mais pour d'autres tronçons, il arrive aussi naturellement que l'on creuse purement et simplement des tunnels à partir d'un grand puits vertical, ce qui relève constamment du tour de force. Or, on n'est pas en terrain vierge, loin de là. Il faut éviter tout un enchevêtrement d'obstacles, les égouts notamment, des caves, les conduites de gaz ou d'électricité bien sûr, ce qui oblige les ingénieurs à multiplier les astuces et à renoncer le plus souvent au tracé rectiligne. Le métro parisien, du reste, est assez peu profond. On a choisi pour des raisons d'économie de le creuser le plus près possible de la surface, contrairement à ce qui se fait dans un certain nombre d'autres villes, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Dès lors, le percement de toutes ces galeries ne peut que créer une infinité de problèmes en termes de mouvement de terrain, bien entendu. Il faut partout veiller à la solidité des assises des immeubles qu'il ne faudrait pas fragiliser en creusant le sous-sol comme gruyère. Autre obstacle et de taille, celui du franchissement de la Seine. On a d'abord pensé à des viaducs comme ceux d'Austerlitz ou de Passy. Mais comme les sols sont fragiles, il faut des fondations très profondes pour ces viaducs. Et finalement, on va souvent choisir la solution qui consiste à passer sous le fleuve. C'est le cas à Saint-Michel, par exemple. Et là, de nouveau, les chantiers s'inscrivent dans le registre de l'exploit et de l'exploit spectaculaire. On place au fond de la Seine des caissons qui font 40 mètres environ et qui sont joints entre eux. Tout ça nécessite des installations sans exemple qui drainent les foules restées bouche bée tout autour. Là, le chantier du métro parisien pendant tout le premier quart du XXe siècle va être la grande attraction de la capitale. En 1900, l'inauguration de la ligne 1 de Vincennes à la Porte Maillot, elle ne va pas encore au-delà, et d'une façon générale, le métro, dans ses premiers tracés, ne concerne que Paris intramuros. Cette inauguration, donc, est un événement considérable. Il s'agit pour les Parisiens et pour les Français d'une grande première. Certains passagers, en descendant sous terre, retiennent, dit-on, leur respiration. Ils ont peur, tout simplement, d'être ensevelis dans un éboulement souterrain. Mais ces craintes, disons-le, seront vite balayées. La simplicité, la rapidité, l'efficacité de ce mode de transport sont sa meilleure publicité, et le métro fait partie de ces innovations qui seront très vite et très largement adoptées par la population. Dès la Première Guerre mondiale, on peut dire que le métro est devenu naturel aux gens, on le prend à tout bout de champ, et son succès ne s'est jamais démenti depuis, malgré les différents problèmes qui ont pu se poser au fil du temps. Je pense notamment à des questions de salubrité, évidemment, de sécurité, de surpeuplement aux heures de pointe, etc. Quand je suis arrivé à Paris il y a un certain temps, maintenant il y a 27 ans, vous vous rendez compte?
Déjà.
Mais oui, le métro était quand même assez souvent vide, hein, en dehors des heures de pointe. Aujourd'hui, il est tout le temps plein. À quelque heure que vous descendiez, c'est assez étonnant. Évidemment, toute une culture du métro va naître pendant le cours du XXe siècle. Les affichistes, les poinçonneurs, les mécaniciens vont enrichir la liste des petits métiers urbains. Nous allons revenir tout à l'heure sur cet univers métropolitain. Ce que je vous propose pour commencer, en compagnie de Jean-Michel Leblanc, qui est le responsable du patrimoine de la RATP, c'est de revenir aux origines du métro parisien et de nous replonger dans ce qui restera, avec le percement des grandes avenues du temps d'Haussmann, bien sûr, comme le plus phénoménal chantier de l'histoire de la capitale.
Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Y'a dans la rue.
Le trou de mon quai de Hanem, une chanson sortie en 1928. Restez avec nous, on vous emmène dans le métro dans un court instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité sur Europe 1, Jean-Michel Leblanc, qui est responsable de l'ingénierie culturelle et du patrimoine à la RATP.
Bonjour Jean-Michel Leblanc.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, je parlais de ce chantier absolument phénoménal. On a des photos incroyables, hein, de cette construction du métro parisien. Ça a été la grande affaire du début du XXe siècle. Ce qu'il faut dire, c'est que les Anglais nous avaient donc devancés depuis longtemps, puisque depuis le milieu des années 1860, il y avait à Londres un métro.
Effectivement, Londres avait son métro depuis 1863 et avait créé la première ligne, la Circle Line. Mais en fait, quand on regarde bien, Paris a bien fait d'attendre, en quelque sorte, hein, je dirais. Pourquoi ? Parce que ce qui est arrivé à Londres, c'est l'introduction du chemin de fer à vapeur.
À vapeur, hein,
à
c'est
vapeur,
ça, mais oui.
Dans Londres, avec un tissu urbain qui était aussi un peu plus lâche que celui de Paris. Et en tous les cas, ça correspondait pas du tout à la volonté du préfet de la Seine, qui voulait, lui, un métro qu'il puisse tutoyer,
mais
comme
oui.
Il le dit. Et donc, à une version, on va dire, beaucoup plus urbaine et beaucoup plus, avec des dessertes beaucoup plus courtes, en tous les cas.
Alors, on s'est posé quand même des questions sur le mode de traction, sur les tracés, bien entendu, tout sur l'organisation générale du métro. Quiconque est allé à Londres sait qu'aujourd'hui encore, c'est un sac de nœuds très difficile à comprendre, le métro londonien. Chez nous, c'est d'une simplicité extraordinaire. Hein,
ça. C'est d'une simplicité. Je pense que on a tiré bénéfice aussi de tous les projets qui sont arrivés, que ça soit Hague, que ça soit Chrétien, que ça soit Euzé, qu'on fait des projets qui, d'ailleurs, étaient plutôt des projets de surface, puisque c'était des projets aériens.
Oui, c'est ça, bien sûr. Oui.
On intégrait d'ailleurs plutôt un projet de surface, parce qu'on pensait à la traction vapeur, et auquel cas, évacuer les fumées, c'était quand même pas très simple dans des tunnels. Et donc, on a orienté en tous les cas toute la structure du métro, effectivement, sur les axes principaux.
On avait commencé à envisager ce métro parisien, donc, dès les années 1880. Et puis, il y a l'exposition universelle de 89, et là, on se rend compte que le métro fait cruellement défaut à une ville qui devient un pôle d'attraction phénoménal à l'échelle planétaire. Et donc, il va falloir trouver une solution. Ça va accélérer, évidemment, les choses.
Hein. Oui, on a raté 89.
Oui, on ne peut pas rater 1900.
On ne peut pas rater 1900. Alors, 1900, en plus, il y a deux rendez-vous. Il y a le rendez-vous aussi des Jeux Olympiques à l'été.
Mais oui.
Et donc on veut pas le rater, donc on met tout en œuvre. Et c'est d'ailleurs aussi un peu pour cette raison que l'État lâche et que qu'il déclare le métropolitain comme d'intérêt local, pour effectivement que la ville de Paris puisse s'équiper du métro pour l'Expo universelle.
Alors il y a deux ingénieurs qui vont mener l'opération. Fulgence Bienvenue, que tout le monde connaît plus ou moins parce qu'il est devenu un peu l'emblème du métro parisien, un petit bonhomme assez extraordinaire, hein, il faut dire, qui avait un caractère bien trempé.
Tout à fait, oui. Breton.
Un breton, ça ne s'invente pas. Et puis, alors celui dont on ne parle jamais, Edmond Huette.
Alors Edmond Huette était le directeur des travaux de la ville. Et en fait, il avait pris la suite d'Alphand.
Grand ingénieur de l'époque du Second Empire.
Exactement. Hein. Et Edmond Huette s'est associé effectivement à Fulgence Bienvenue dans la définition. Dès 98, il travaille sur l'avant-projet et tire bénéfice, je dirais, de tout ce qui s'était passé auparavant pour à la fois intégrer une logique d'un métro souterrain et aussi d'intégrer un phénomène qui arrive vers la fin des années 1890, qui est la félectricité, la capacité effectivement de pouvoir tracter le métro par l'électricité.
La compagnie principale, c'est celle du chemin de fer métropolitain de Paris, c'est la CMP. Hein,
C'est la CMP qui a été créée en 98 et qui est issue de la CGT, la Compagnie Générale de Traction du Baron Rampin, qui effectivement où la ville de Paris décide en fait de lui concéder l'exploitation effectivement du métro.
Alors je me suis dit que j'allais raconter dans le cadre du récit de cette émission, j'allais raconter l'inauguration du métro. Je me suis rendu compte qu'en fait il y a rien à raconter, c'est assez étonnant. Ça n'a pas été un très gros événement l'inauguration en soi.
L'inauguration du métro en fait n'a pas eu lieu en quelque
sorte. Ouais, c'est ça. Oui.
N'a pas eu lieu pour des raisons simples, c'est que l'Expo universelle a démarré le 14 avril, le métro est arrivé le 19 juillet.
Oui. Donc, avec un peu de retard.
On va dire quelques mois de retard, avant la fin de l'Expo universelle. Mais ceci dit, au mois de juillet, avec 3 mois de retard. Donc, du fait, c'était une ouverture du métro et pas une inauguration du métro, avec quelques officiels.
Alors, via Facebook, un de nos auditeurs nous dit « Ce que j'aime surtout, ce sont les entrées contemporaines des stations du métro apparues dans le style Art Nouveau au début 1900. » C'est ces fameuses stations de Guimard qui vont faire la célébrité du métro parisien.
Alors, qui vont faire la célébrité du métro parisien. En fait, Guimard, Adrien Bénard, qui est le président de la CMP, a lancé un concours pour obtenir effectivement des émergences dans Paris de qualité. Et le concours est infructueux. Il répond, il va chercher Guimard, il lui pose la question et Guimard répond très rapidement. En quelques mois, il propose ses entrées avec ce style Art Nouveau aujourd'hui très réputé.
Et aussi le style nouille, comme on dit.
Le style nouille, mais aussi avec tout un système mécanique de réalisation et de construction très moderne pour l'époque et qui permet de s'adapter en fait à toutes les entrées de stations de métro.
Les gens ont un peu peur de descendre dans le métro, évidemment. Hein. Ça n'est pas, à l'époque, on n'a pas l'habitude, tout simplement.
Pour deux raisons, hein. C'est que d'une part, je pense que dans l'imaginaire des gens, le souterrain, c'est la correspondance de la mort en quelque sorte. Et c'est vrai. Et les premiers articles, on compare les voyageurs à des rats en quelque sorte qui vont dans les égouts.
Ça va très vite être balayé.
Très vite, très rapidement. L'autre élément, effectivement, c'est que le métro, c'est le premier à utiliser l'électricité, mais malgré tout. C'est un métro qui est pas très éclairé. On a une ampoule de 15 watts tous les 5 mètres, ce qui est pas du tout l'éclairage d'aujourd'hui. Et on imagine effectivement, heureusement qu'il y avait une voûte blanche qui permettait effectivement de transmettre cette lumière.
En 1903, survient un accident qui va évidemment inquiéter la population, objectivement. C'est l'incendie de 1903.
Hein. L'incendie de 1903 à la station Couronne. En fait, qui est pas l'incendie d'un métro, du métro transportant des voyageurs, mais d'un métro qui précède, qui a une avarie technique, et c'est les dégagements de fumée à la station Couronne qui vont créer cette panique et qui vont créer effectivement un accident de 84 morts, quand même, ce qui est considérable.
C'est beaucoup. À quoi ressemblent les rames du métro de l'époque physiquement? Ça ressemble à quoi, ce métro?
Alors le métro,
on est dans les années 1900, avant la Première Guerre mondiale, disons.
Oui. Alors en fait, ça avait évolué très très rapidement. Et d'ailleurs, la catastrophe de Couronne est un des éléments déclencheurs de l'évolution en fait des matériels métro. Mais quand au tout début, on est plutôt sur un tramway. On est sur des wagons qui sont en bois, qui sont montés sur des essieux. Et très, très rapidement, en 1903, suite à cette catastrophe, on se pose la question, effectivement, de comment garantir la sécurité des voyageurs. On transforme, on isole en fait la cabine de conduite qui devient métallique. Mm-hmm. On fait passer tous les systèmes électriques en dessous sous le châssis et on met des bogies à la place des essieux. Mm-hmm. Et on transforme, c'est l'arrivée, c'est le début des material spec qu'on va connaître jusqu'en 1983.
Oui. Et alors, ce sont des voitures qui sont en bois encore, évidemment. Alors,
une partie.
Il y a trois classes ou deux dans le métro?
Il y a du 3 et après 2 en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et on est arrivé, la loge était en métallique et la zone effectivement transportant les voyageurs était en bois. Et progressivement, le remplacement des véhicules va se faire et vont devenir totalement métalliques.
Alors, décidément, ça fait un peu le vétéran là aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'autrefois, quand j'étais petit, il y avait une très grosse différence de confort entre les voitures de première classe qui étaient rembourrées, assez belles, et les voitures de deuxième classe qui étaient des bancs en bois, hein, tout simplement.
C'était... Oui, oui, tout à fait. C'est exactement. On avait aussi les porte-chapeaux qui étaient intégrés aux voitures. Mais aujourd'hui, quand vous reprenez, il y a une certaine nostalgie sur les banquets de bois qui fait que...
Alors, il y a quelques temps, je ne sais plus à quelle occasion, on avait ressorti de vieilles voitures, de vieilles rames du métro. Et alors, c'était stupéfiant parce que dans les stations actuelles, évidemment, on voyait arriver ces vieilles voitures et les gens applaudissaient. Ils étaient ravis de voir ça, en fait. Hein. On devrait les ressortir de temps en temps.
Ça fait partie des opérations qu'on essaye de mettre en place au moment des journées du patrimoine, en place le matériel historique et de le refaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et je vous rappelle que jusqu'à 14h sur Europe 1, on s'intéresse au métro, à son évolution, à sa culture aussi, Franck.
Mais oui, une culture du métro qui fait bien sûr maintenant partie de notre quotidien, mais qui a mis un peu de temps à s'installer. La grande époque du métro, est-ce qu'on peut dire que c'est l'après-Première Guerre mondiale? Là, on voit les lignes se multiplier, littéralement.
Avant la première, du moins jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on a réalisé pratiquement quand même 95 km de voies et on est à peu près, on va dire, au tiers, un peu plus du tiers de ce que représente le réseau aujourd'hui. La phase juste après, c'est-à-dire plutôt dans les années 25-30, ça va être la décision de porter le métro en banlieue
et
de réaliser effectivement ces prolongements. Aussi parce que la population a changé, les coûts augmentant, une partie de la population parisienne
est allée s'installer hors de Paris.
Exactement.
Peu à peu, oui, tout l'habitat populaire de Paris s'est un petit peu expatrié.
Tout à fait.
Alors, il y a eu cette... je parlais tout à l'heure de la dimension touristique des travaux même du métro. Il ne faut pas oublier que c'était une attraction considérable, notamment les lignes de franchissement de la Seine. Hein,
Avec des franchissements sur viaduc, avec des portées. Et avec des franchissements encore plus spectaculaires. Sous le fleuve. Avec la congélation d'un des bras de la Seine afin de creuser effectivement les sédiments, afin d'enfuir les caissons dont vous parliez tout à l'heure, caissons étanches qui par système de fonçage, c'est-à-dire par immersion, ont été intégrés dans le sous-sol de la Seine en quelque sorte.
Ah oui, ça devait être assez extraordinaire à voir.
Surtout que tous les caissons étaient fabriqués sur les berges. Donc le spectacle des travaux, il était en direct en quelque sorte.
La numérotation actuelle des lignes de métro a changé en fait. Ce n'est plus les numéros des anciennes lignes.
Alors si on fait l'histoire de la numérotation, ça change
tout
énormément. Ça change énormément.
Ouais.
La ligne 1 est restée.
C'est la seule.
Oui,
ça, celle-là, évidemment.
La ligne 2.
Ce qu'on appelle la ligne 1, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de Paris, c'est la grande ligne transversale qui va d'est en ouest ou d'ouest en est, comme on voudra.
Exactement.
Et qui suit un peu le tracé de la Seine qui va en gros de la Défense jusqu'à Vincennes.
Et si on prend un autre exemple qui sont les lignes circulaires, sud, elle s'appelait la 2 à l'origine, la 2 nord est restée de ligne 2, la 2 sud est devenue pendant un temps la ligne 5 et aujourd'hui s'appelle ligne 6.
Ouais. Bon, alors allez comprendre.
Je crois que ça s'explique sur un plan.
On va parler de cette compagnie nord-sud avec Astrid Fontaine parce que ça c'est ce qui m'a le plus surpris dans toute cette affaire. Juste un mot des métiers du métro. Il y avait les guichetiers bien entendu, il y avait les mécaniciens, enfin les conducteurs, comment est-ce qu'on les appelle d'ailleurs, quel est le terme, le conducteur du métro. Et puis bien sûr les poinçonneurs. Alors, il y a 40 ans, on a supprimé les poinçonneurs dans le métro. Et voilà ce qu'au micro d'Europe 1 déclarait une dame dont le métier était poinçonneuse, précisément. Finalement, elle a l'air de nous dire qu'on n'allait pas beaucoup regretter ce métier-là.
C'est faire des trous à longueur de journée. Alors tous les jours, la même chose. Il n'y a pas d'histoire. Des trous.
Mais tous les jours, les mêmes gens.
Tous les jours. Bien sûr, dans les stations, c'est toujours les mêmes habitués. Mais vous savez, j'aime mieux vous dire qu'ils ne sont pas toujours agréables. Hein. Ça, je tiens à dire qu'ils nous traitent des fois comme des chiens. Hein.
Pourquoi ?
Ah ben parce qu'on leur fait un trou dans les billets et ça, ils peuvent pas l'accepter. Ils nous insultent, c'est tout, ils nous traitent de tous les noms. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse les trous. Mais malheureusement, je crois que pour certaines, pour beaucoup d'ailleurs, les trous, ça va être bientôt fini. Et le travail, terminé. Et pas de possibilité de reclassement. Hein. À cet âge-là, on ne se reclasse pas, vous pensez ? 60 ans. Pour moderniser, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens ?
C'était en février 1972, au micro de Pierre Chatignoux. Cette dame, finalement, a l'air de dire que son métier n'était pas très passionnant. Alors, on est vite passé au tourniquet, et puis des tourniquets aux portes à air comprimé. Enfin, tout ça a beaucoup évolué, évidemment. Oui, Jean-Michel Leblanc.
En fait, dès 68, on commence à parler du ticket magnétique, et progressivement, on va mettre en place effectivement les péages automatiques, alors avec plusieurs technologies, effectivement, les portails pivotants, les portails à effacement, ainsi de suite. Pas mal de technologies, mais en fait, ça fait disparaître une partie d'une population du métro, et ça en crée une autre. Ça crée aussi tous les mainteneurs afférents qui vont s'occuper de cet automatisme. Et Dieu sait que il y a vraiment un grand nombre de passages automatiques sur le métro aujourd'hui.
La petite Madeleine que j'ai connue à Saint-Lazare, je l'ai choisie pour son superbe corps bizarre. Elle avait le sein placide et un sacré businval. Elle avait tout un arsenal. Je craignais que ce fût une fille du calvaire. Auquel cas faut se méfier du chardon la gâche. Et pour pas garder la marque, lui fallut que j'aille à Pasteur. Moi pour Suffrène, non Bercy. Elle me répond qu'elle s'entend Paul le froissard. Vu qu'elle avait plusieurs amants.
Pierre Perret sur Europe 1, Bercy Madeleine, parole faite de jeu de mots sur les noms des stations de métro. Métro qui fait réagir nos auditeurs.
Eh oui, Céline nous dit, j'ai 40 ans, je me souviens d'avoir connu jusqu'au début des années 90 la première et la seconde classe. De quand date la fin de la première classe de vous, demande-t-elle, à vous Jean-Michel Leblanc?
La fin de la première classe, c'est 1991.
Voilà, c'est donc bien ça, c'est bien voilà. Le tout début des années 90. Merci, nous dit Soussika par internet. Le premier métro continental, ne l'oublions pas, est celui de Budapest. Alors oui, on faudrait parler de tous les autres métros. Hein, on n'aura pas le temps aujourd'hui.
On n'a pas le temps, mais Budapest, c'est 1896.
Oui, hein, c'est ça. C'est très peu de temps avant Paris, mais c'est avant.
Ah, c'est avant Paris et c'est électrique.
Et c'est électrique déjà. Il faut dire que cet empire austro-hongrois a été très en avance hein, pour toutes ces questions en fait.
Oui, très en avance, mais à la fois ils ont fait qu'une seule ligne.
Oui.
Donc après, en regard du métro parisien, voilà.
Oui, ça n'était pas énorme, évidemment. Ça tient aussi à la conformation de la ville, hein, faut dire, qui est tout en longueur. Alors, bonjour Astrid Fontaine, merci d'être venue nous parler du peuple des tunnels, 1900-1930, qui paraît chez Ginko. Vous avez mis en couverture une photographie d'une entrée de métro. Alors, on est à la station Chambre des députés, donc c'est la station Assemblée nationale d'aujourd'hui.
Voilà.
Et il y a écrit en très gros dessus, Nord-Sud. Qu'est-ce que c'est que cette découverte que vous avez faite?
Alors la compagnie du Nord-Sud était une petite compagnie de métro qui a construit en fait uniquement deux lignes sur tout le réseau du métro parisien, la ligne actuelle 12 et la 13, et qui était en fait la concurrente en quelque sorte, la petite concurrente de l'imposante et municipale CMP, compagnie du métropolitain parisien.
Alors cette petite concurrente, elle a disparu relativement tôt, il faut le dire.
En 1930, en fait, oui, elle a pas survécu. Elle a été absorbée en fait par la CMP.
Elle avait un fondateur que vous faites revivre, qui s'appelle Jean-Baptiste Berlier. Qui était-il, ce monsieur Berlier?
Alors Jean-Baptiste Berlier, c'est un personnage assez étonnant, assez intéressant, puisque quand on regarde un peu les encyclopédies et les articles sur ce personnage, il est déclaré comme ingénieur, ayant fait l'école des mines de Saint-Étienne.
Il a un très beau cursus officiel.
Ouais, très magnifique cursus.
Sauf que quand on creuse un peu...
Il n'a fait aucune de ces écoles. par contre, c'était certainement un autodidacte de génie et qui a réussi en fait par la qualité de ses inventions et leur efficience en fait à se faire reconnaître et à construire quand même à proposer un projet de métro à traction électrique dès 1887 en fait.
Oui. Donc il était un précurseur.
C'était
donc,
un vrai précurseur.
On peut le dire. Ouais, et il va obtenir des concessions, mais il est l'investisseur principal de, de ces travaux. Hein.
Voilà, contrairement à la CMP, en fait, pour la CMP...
La CMP qui est, on va dire, un peu l'ancêtre de la RATP, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire ça? Je vous vois grimacer, Jean-Michel Leblanc. Oui.
Non, je grimace pas. La CMP était essentiellement, du moins, en 41, elle a réintégré le réseau de surface. Effectivement, on peut considérer que c'est la société qui précède la RATP.
La RATP est fondée en 1949.
Exactement.
Donc en fait, la CMP a été en partie subventionnée par la ville de Paris, en tout cas pour tout ce qui est l'aspect construction des galeries. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le Nord-Sud en fait. Le Nord-Sud a réalisé la totalité de ses tunnels à ses frais. Voilà, donc c'était une compagnie totalement privée, en fait.
Alors, vous avez été fouillé dans les archives de cette compagnie, en vérité. Vous y avez trouvé alors des photos, beaucoup de photos.
Des photos de la construction, qui sont pas forcément très explicites. Beaucoup de photos floues, beaucoup de photos de chantier, en fait. Et puis surtout, un fonds assez extraordinaire qui est constitué par les dossiers du personnel de cette compagnie. Donc ça représente 4848 dossiers du personnel qui a exploité en fait ces deux lignes entre 1910 et 1930.
Vous avez fait ce que l'on appelait, quand je faisais des études, de la micro-histoire. C'est-à-dire que vous êtes allé dans ces dossiers de personnel et vous avez fait revivre les parcours de tous ces petites gens, on peut dire.
Tout à fait, tous ces anonymes.
Les anonymes, voilà.
En fait, c'est pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est pas uniquement des dossiers administratifs qui méritent un traitement statistique.
Loin de là. Hein.
Loin de là, il y a énormément de données très personnelles, très intimes. Il y a énormément de lettres, en fait. Il y a une correspondance énorme entre les employés et leur supérieur à la compagnie. Donc j'ai travaillé en fait à partir de ça. Enfin, c'est vraiment la matière première du livre, c'est le témoignage direct écrit par ces gens de leur vie quotidienne.
Alors sur la couverture, il vous a mis 9 photos. Sur les 9, il y a 2 femmes. En fait, il y a beaucoup d'hommes dans cette.
C'est un monde très masculin. Il y a seulement 11% de femmes, mais elles sont quand même présentes. Hein. Pour beaucoup, elles vendent les tickets en fait essentiellement.
J'ai dit tout à l'heure, petites gens, vous avez rectifié anonymes, ce sont quoi qu'il en soit des gens très modestes, leurs revenus sont faibles.
Leurs revenus sont très faibles, ils sont effectivement d'origine modeste pour la plupart, même s'il y en a qui ont bénéficié d'éducation assez importante. On est aussi dans une période où la précarité est très très grande et où les conditions de vie sont extrêmement difficiles sur Paris et en France d'une manière générale. Voilà, donc c'est effectivement des gens qui...
La journée de travail est de 10 heures et on travaille évidemment pour l'essentiel sous la surface du sol par définition.
Quasiment
c'est une
toujours.
Compagnie de métro. Donc, et avec des rapports qui peuvent être assez agressifs avec la population. On a tendance à dire nous vivons dans une époque d'incivilité, etc. C'était bien pire à l'époque d'après ce que vous nous décrivez.
C'était bien pire. La violence physique, le rapport à la violence physique.
On se tapait dessus assez volontiers.
On se tapait dessus dans la rue, on se tapait dessus sur les quais du métro et effectivement on n'hésitait pas à en venir aux mains en fait. C'est un rapport à la violence physique qui a quand même pour beaucoup disparu aujourd'hui. En fait.
On voit évoluer cette compagnie avec le temps, évidemment.
Oui.
Les rapports sociaux, notamment, changent, surtout après la Première Guerre mondiale. Ça a tendance à se dégrader plutôt même en fait.
En fait, après la Première Guerre mondiale, il y a donc une expansion économique qui est à nouveau de retour. Simplement, les salaires n'augmentent pas et les conditions de vie sont toujours aussi difficiles. Donc, la belle époque, donc avant la Première Guerre mondiale, c'est l'époque des grandes grèves. Ensuite, il y a la guerre, la période de la guerre qui est très traumatisante. Et après guerre, en fait, c'est également une période de grève et de revendications et de lutte sociale importante. Donc il y a effectivement des mouvements de revendications très, très durs.
Jean-Michel Leblanc, cette compagnie Nord-Sud, elle disparaît donc relativement tôt.
Oui, elle est absorbée en 1931, au 1er janvier 1931, par la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris. Jusqu'alors, d'ailleurs, les lignes s'appelaient A et B et elles réintègrent la numérotation.
Voilà, donc ça va devenir les lignes 12 et 13. Qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour les grands connaisseurs, on peut distinguer, on peut observer des nuances, évidemment.
Oui, tout à fait. Alors, la ligne 12 a très peu changé. La ligne 13, en fait, c'était que la partie nord, celle qui était au-dessus de Saint-Lazare et qui allait jusqu'à Jules Geoffrin. Et après, ça a été rattaché avec un bout de la ligne 14 pour en faire une ligne 13. Voilà, complète.
Merci beaucoup d'être venu faire revivre ce métro des origines. Astrid Fontaine, Le peuple des tunnels, 1900-1930, c'est chez Ginko Éditeur.